Ah, bonjour.
Bon, j'ai la lourde tâche de, d'une part, présenter la maison d'édition et, d'autre part, d'animer le débat entre Lauren Elkin et Gérald Tenenbaum, Lauren ayant écrit Une année à Venise et Gérald L'affinité des traces. Donc, je me présente Héloïse d'Ormesson. Nous avons créé avec mon conjoint il y a 7 ans maintenant, donc on atteint tout juste l'âge de raison, nous avons créé la maison d'édition Héloïse d'Ormesson. Nous publions une grosse vingtaine de titres par an, moins de 25. Et un tiers de ces titres sont des essais. Et le reste de la production, c'est de la fiction française et étrangère, quasi, je dirais, 10 romans français, 10 romans étrangers, 4 ou 5 essais par an. Ce qui serait la ligne force, je dirais, de la fiction des éditions Héloïse d'Ormesson, les deux auteurs qui sont à mes côtés ce soir sont de très bons représentants de cette ligne. Ce sont des auteurs et des livres qui sont de livres romanesques de qualité et littéraire. C'est-à-dire que moi je suis très très éclectique dans mes goûts. D'ailleurs, les deux romans présents sont assez différents. Vous le découvrirez quand les auteurs en parleront. Mais j'aime beaucoup les romans ou les textes qui sont qui jouent avec la langue, avec la structure, l'inventivité langagière. J'aime beaucoup les oulipiens que Lauren aime aussi. Disons que j'ai beaucoup d'affinité avec les textes que Vertical peut publier ou Fiction et compagnie. Mais je trouvais qu'il y avait déjà des maisons d'édition en France qui publiait et publiait très bien et publiait depuis un certain nombre d'années ce type d'auteur et ce type de texte, qu'en revanche il y avait peut-être moins d'éditeurs qui recherchaient à la fois des auteurs qui savaient raconter des histoires mais aussi les écrire. C'est-à-dire que pour moi il faut qu'il y ait pas forcément une adéquation entre le fond et la forme, mais qu'il y ait quand même que les deux s'accompagnent. Et une belle histoire mal écrite, c'est quand même frustrant. Et une très belle écriture un peu vaine, un peu creuse, ça peut être étourdissant, mais c'est pas non plus. Mais en tout cas, pour les éditions, l'idée c'était de trouver cette espèce de savant. C'est pas toujours facile. Puis les auteurs qui arrivent à conjuguer les deux sont rares. Mais notre objectif c'est de défendre et de publier ce type de livres et d'auteurs. Que vous dire de plus ? Nous sommes 7. La devise de la maison, c'est une petite qui a tout d'une grande. C'est plutôt un clin d'œil, hein, ça ne se veut pas du tout prétentieux. On ose ce slogan, c'est que je pense qu'on investit pour défendre des textes d'auteurs peut-être moins connus, compte tenu de la taille de la maison, on se mobilise et on investit ce que des grosses maisons n'investiraient pas sur ce type d'auteur ou de livre. Et puis la taille de la maison aussi, c'est pas parce qu'on est une petite maison indépendante qu'on ne s'autorise pas à faire certaines mises en avant de textes et de publications, de petits dépliants promotionnels, achat d'espaces publicitaires. En tout cas, on se comporte et on investit quand même assez de façon conséquente sur nos livres, bien qu'étant de artisans. Et la dernière chose que je dirais sur la maison, c'est que je pense qu'il faut toujours s'appuyer sur ses points forts et pas essayer de combattre ses points faibles, parce que on a tous des points faibles, mais je pense que c'est sur ces points forts qu'on peut vraiment marquer des points. Donc notre point fort, c'est qu'on est une maison, Une maison quasi familiale, puisque les fondateurs sont mari et femme, que j'ai coutume de dire que le comité de lecture, c'est notre lit, et qu'on se passe les manuscrits d'un bout à, d'un côté à l'autre du lit. Mais par ailleurs, on a vraiment... on insiste beaucoup sur le côté justement convivial, amical et fraternel de cette maison dont les auteurs sont des membres. Et maintenant, il y a une sorte de cooptation des auteurs les uns les autres qui ont une réelle complicité et pour certains une vraie amitié. Et donc, on n'est pas une entreprise d'édition. C'est vraiment une maison. D'ailleurs, le siège les bureaux sont dans une espèce de quasi petite maison au premier étage d'un tout petit immeuble dans le 5e arrondissement de Paris. Et encore une fois, ce qui me ravit, c'est que en 7 ans, on a vraiment rassemblé autour de nous un certain nombre d'auteurs qui, tout à fait en dehors des éditions, se parlent, s'échangent leurs manuscrits, se communiquent constamment, se demandent est-ce que tu vas à tel salon du livre, quand sort ton livre, ah, toi tu seras de la rentrée, moi je suis du printemps, enfin je crois que, enfin je ne révélerai pas les secrets des coulisses de la maison, mais je sais que vous êtes les uns les autres, enfin qu'il y a vraiment des amitiés qui se sont noués à tel point qu'il arrive que vous lisiez les uns les autres les manuscrits avant que je ne les lise moi-même. C'est-à-dire que certains auteurs s'échangent leurs textes et s'épaulent et se conseillent. Et je pense qu'il y a... ce qui me fait aussi très plaisir, c'est qu'il y a... En tout cas, il n'y a pas de rivalité entre les auteurs de la maison, et il y a vraiment un esprit vraiment d'équipe et quand on va dans tel ou tel salon, il y a la petite brochette des auteurs UHO qui était une atmosphère assez particulière. Voilà en gros en quelques mots ce que je peux dire sur cette maison. Et donc, pour illustrer le propos, je suis très heureuse d'avoir à mes côtés Lorraine, qui est américaine et qui vit à Paris, et qui va vous expliquer pourquoi Une année à Venise, et dont c'est le premier roman. Et Gérald Tenenbaum, L'affinité des traces, donc c'est le sixième roman, et je suis très fière puisque c'est le cinquième roman publié par les éditions, donc c'est une quatrième. Alors quelles sont... Bon, il y a un peu. Bon, en tout cas, nous faisons route ensemble depuis 5 ans.
6 ans.
6 ans. Alors, en apparence. Peut-être peu de points communs entre Une année à Venise et L'affinité des traces, mais quand même quelques convergences et quelques, finalement, ressemblances, ou en tout cas parallèles. Mais la première question que j'aimerais vous poser à l'un comme à l'autre, c'est à Lorraine, pourquoi Venise, et à Gérald, pourquoi l'Algérie? Parce que dans les deux cas, je ne vais pas vous souffler leur réponse, mais dans les deux cas, je pense que les lieux, les décors et la ville et le pays ne se sont pas imposés ni à l'un ni à l'autre. Donc, Lorraine, peut-être.
Je commence. Donc,
Bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Ça me fait très plaisir d'être à Bordeaux en faisant un débat avec Louise et Gérald. Donc, pour répondre à cette question, pourquoi Venise, je crois qu'il faut d'abord adresser la question de comment on a une idée pour rédiger un roman, comment ça vient à l'esprit, l'idée pour tel ou tel roman. Et pour moi, ça se fait, bien entendu, c'est mon premier roman, mais j'ai d'autres en tête. Mais pour celui-ci, ça s'est produit un peu en... pour moi, les livres que je lis, que j'envisage d'écrire, sont tous liés par des petits trucs qui se ressemblent, des points communs, je ne sais pas, des intuitions, des émotions. Donc pour moi, j'étais en train de lire un bouquin de l'écrivain anglais Ian McEwan qui s'appelle en anglais « The Comfort of Strangers ». Je ne connais pas le titre en français, excusez-moi. Et ça se déroule à Venise. Et c'est une intrigue assez noire, assez troublante, assez bizarre. Ça m'a révélé un côté de Venise que j'avais jamais, à laquelle j'avais jamais pensé. Et donc ça s'est installé quelque part dans ma tête. En même temps, c'était au tout début de mon séjour à Paris. J'ai quitté New York pour venir vivre à Paris en 2004. Et j'avais rencontré le genre de problème qu'on se rencontre quand on quitte son pays natal pour s'installer dans une nouvelle culture. Genre, j'avais des troubles des garçons. Et aussi des troubles de langue et de dépaysement et de ne pas savoir pourquoi j'avais quitté ma famille et tout ce qui m'était familier pour m'aller installer en France où je n'ai pas de famille. Je connaissais à peine la langue à l'époque. Ça va un bras mieux, mais bon, on verra. C'était juste ces deux expériences, de lire Ian McEwan et d'être totalement dépaysée à Paris, que j'ai eu l'idée de rédiger un roman qui se déroulait... D'abord, c'est un peu autobiographique parce qu'il s'agit d'abord d'une jeune femme américaine qui est en thèse, qui quitte son fiancé à New York pour aller faire un peu de recherche à Venise. Donc là, il y avait un parallèle autobiographique. Mais pour cette jeune femme, Catherine... Venise, c'est un endroit particulier parce que c'est une ville qui est bâtie sur mer. Il n'y a pas de raison pour Venise à exister. C'était fondé par les réchappés qui fuyaient les Huns. Et donc, ils se sont dit, tiens, il y a un peu de boue là. On peut se mettre des piles dans la boue. Et comme ça, on peut construire une fondation d'une ville qui est devenue une ville mais extraordinaire, qui a dominé les mers pendant des siècles. Donc pour moi, aller m'installer à Paris, c'était un peu comme si je bâtissais une ville sur mer. Il n'y avait pas de fondation du tout, il y avait juste de la boue. Et donc pour moi, c'était un moyen de lier mon expérience autobiographique et de ne pas placer l'intrigue à Paris, qui me paraissait un peu trop évidente, un peu trop autobiographique. Et pas intéressant à ce moment-là. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question.
Je pense.
Et donc, je rajouterais juste que le titre du roman de Lorraine en anglais est très différent du titre français, puisque c'est Floating Cities, cité flottante. Cité flottante en français, c'est une belle idée, mais ça ne sonne pas très flottant, c'est pas... C'est pas anodin et on y reviendra parce que ça fait partie des parallèles. On parlera de l'eau et du sable, mais je laisse Gérald répondre à la question un peu bétasse, hein, mais ça les lance sur le pourquoi l'Algérie.
Oui, alors dans mon cas, disons que. Bon, mon projet littéraire, c'est de donner à la fois une histoire, une écriture, en même temps peut-être un contenu philosophique, un contenu politique. Donc c'est un projet ambitieux dans lequel j'aime beaucoup les écrivains qui donnent des textes qui ne s'épuisent pas à la première lecture. Et d'ailleurs, souvent, les retours que j'ai de lecteurs, c'est de me dire, on a lu ton texte et on l'a relu. Et donc, dans les motivations pour l'affinité des traces, étaient de, de plusieurs ordres. Bon, d'une part, j'avais envie de revisiter une période de l'histoire de France qui est peut-être peu connue, donc qui est la fin de la guerre d'Algérie. Et puis, comme dans plusieurs de mes romans, j'ai envie de donner la parole à une catégorie de personnes qui n'a jamais eu la parole, qui sont les enfants de déportés, ces gens qui n'ont pas pu parler, donc déportés revenus ou non revenus, pour moi le problème est essentiellement le même, ces gens qui n'ont pas pu parler à l'époque où personne ne parlait, qui n'ont pas pu parler quand les langues se sont déliées parce qu'ils ont laissé la parole à leurs aînés, et donc devant les témoignages des rescapés, ils se sont également tus. Et donc, ils se sont tus toute leur vie et ils ont eu une souffrance comme ça, muette. Et d'ailleurs, plus généralement, je m'intéresse beaucoup aux personnages que j'appelle les vaincus de l'histoire. Ça peut être les Russes blancs, ça peut être toutes sortes de personnages, les anciens de la guerre d'Indochine, dont j'ai parlé dans un autre livre, toutes sortes de personnages qui n'ont pas été tous du côté des vainqueurs et qui ont une histoire qui est souvent difficile à transmettre. Et puis, par ailleurs, une autre des motivations de ce livre, c'était la montée du communautarisme que je vois ériger des barrières entre les gens de plus en plus. Cette soif d'identité qui consiste à se construire contre et non pas avec, des mains tendues, mais des mains qui font non, on ne passe pas. Et donc, tout ça s'est trouvé finalement mélangé. Et puis j'ai eu l'idée du roman en relisant un chapitre de la Bible, qui est le livre de Ruth. Et le livre de Ruth m'est apparu comme une formidable mise en garde, qui date de 3500 ans, et une formidable mise en garde contre le communautarisme, puisque Ruth, donc une Moabite, donc une Palestinienne, se trouve accueillie dans le peuple par le peuple hébreu, alors même que une des règles de ce peuple était de ne pas accueillir les Moabites. Le texte biblique dit jusqu'à la 10e génération, et puis comme ça ne suffisait pas, il ajoute et jusqu'à la fin des temps. Comme ça, c'est clair. Et pourtant, c'est interdit et transgressé. Et il est transgressé de manière essentielle, puisque Boaz, le Boaz par exemple du poème de Victor Hugo, Boaz dans la Bible, donc épouse Ruth, et que de cette union n'est rien moins que l'ancêtre du roi David. Donc c'est-à-dire que cette étrangère a été accueillie non pas à la périphérie de la communauté, mais en plein centre, puisqu'elle va donner naissance à la lignée des rois mythiques d'Israël. Donc, la littérature, à mon sens, n'existe pas s'il n'y a pas de transposition. Je crois que Lorraine l'a dit également. Elle ne voulait pas que ça soit trop près de sa propre expérience. Et donc, il m'a paru intéressant d'inverser les situations et de prendre un personnage qui serait une jeune fille juive, une jeune fille, une orpheline du génocide, et qui serait accueillie par une communauté différente. Bon, j'avais imaginé un certain nombre d'autres scénarios. Dans d'autres scénarios, c'était pas une jeune fille, c'était un jeune homme. Enfin bon, peu importe. Et puis j'ai cherché et finalement, alors quand le problème est de à la fois de rendre crédible une histoire d'amour entre des personnages qui sont étrangers, très étrangers les uns aux autres, à la fois dans leur culture et même dans leurs âges, puisque dans la Bible, Boaz est déjà un homme âgé quand il rencontre Ruth. Et puis, Donc, et en même temps, de rendre crédible ce changement complet de culture. Comment est-ce qu'on quitte une culture pour en embrasser une autre? Et dans le projet que j'avais, il ne s'agissait pas d'abandonner une culture, mais de s'enrichir en en trouvant une autre. Il ne s'agissait pas de renier ce qu'on est, il s'agissait de, d'être à la fois ce qu'on était et puis ce qu'on a envie de devenir. Il s'agissait de mettre en scène un personnage qui a une famille, mais cette famille, d'une certaine n'est pas satisfaisante, mais c'est quand même une famille où il y a une certaine tendresse. Moi, j'ai toujours été ému, plus qu'ému, par ces enfants de déportés qui, après la guerre, ont appelé dans leur vie 3, 4, 5 personnes maman. Comment on peut se construire quand, dans sa vie, on a appelé 5 personnes différentes maman? Et donc, ça, c'était quelque chose dont je m'étais promis de parler un jour. Donc, ces personnes, donc à la fois, elle quitte sa famille, bon, qui est une famille donc, bon, où règne une certaine tendresse, mais finalement, toutes ces personnes qu'elle appelle maman ne peuvent pas remplacer cette mère qui est perdue, qui est mythifiée, parce qu'elle a été perdue à un âge très, très jeune. Et elle choisit. Donc elle remplace la famille dont elle est issue par une famille qu'elle choisit en fonction de ses valeurs, sans pour autant oublier là d'où elle vient. Et donc j'ai commencé à faire des recherches. Je suis tombé sur cet épisode donc des essais nucléaires pendant la guerre d'Algérie. Et puis à partir de là, je me suis dit, bon voilà, quand on est là, bon, par qui est-ce qu'on peut être recueilli? Et j'ai commencé à faire des recherches sur le peuple Touareg. Et là, ça a été une aventure documentaire d'abord, donc extraordinaire. Donc j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé 18 mois sur le peuple Touareg avec des documentations de toutes sortes, des thèses universitaires, des études, des livres d'ethnologues, des poèmes, beaucoup de poèmes, parce que le peuple Touareg est un peuple de poètes qui vit avec la poésie, donc ça m'a immédiatement parlé. En même temps, le désert et la poésie sont toujours intimement liés, et puis aussi des films, parce que bon, il faut bien les voir bouger si on veut pouvoir les décrire. Voilà, on montre pas comme ça quelqu'un qui voilà comment on monte sur un chameau. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez pas le décrire. Et puis aussi des témoignages de Touareg qui s'expriment souvent, qui sont prêts à parler d'eux-mêmes, qui sont prêts à parler de leur mode de vie. Tout ça c'est condensé, puis finalement donc j'ai fait le choix de placer ce livre donc au moment bon en grande partie puisque bon il est écrit disons en grande partie comme un flashback. Il y a une première scène qui est contemporaine, une dernière scène qui est contemporaine, et le livre est comme accroché comme un hamac entre ces deux points extrêmes, entre cette première et cette dernière scène, qui va de l'un à l'autre, donc en remontant dans le temps et puis en nous ramenant à l'époque présente. Voilà, bon, je crois que c'est ce que je peux dire au départ, en tout cas.
Alors, je vais rebondir sur deux. Vous aurez compris que Edith, le personnage principal du roman de Gérald, quitte, alors il ne vous l'a pas dit, mais quitte la France, quitte l'Est, et quitte un destin qui est tracé, qu'elle le dire, qui est un mari qui est peut-être pas tout trouvé, mais presque, et refuse cette vie
qu'on lui dessine et qu'on lui promet. Il part à l'aventure et passe un concours de l'armée, de secrétariat, se retrouve affectée en Algérie, évidemment pays et terre qu'elle ne connaît absolument pas. Et là, ça me ramène à Lorraine, parce que Lorraine, ton héroïne, Catherine, fait aussi le choix de quitter New York, quitter l'Amérique, où alors qu'elle est en train de préparer son mariage, alors que elle aussi son destin semble établi, écrit, et alors consciemment ou inconsciemment, dans le cas d'Edith, c'est tout à fait conscient. Elle choisit de partir. Elle fuit réellement cette vie et elle veut autre chose. Dans le cas de Catherine, c'est plus. Elle va mettre à peu près tout le livre à comprendre. Que peut-être cette année à Venise n'est pas la motivation n'est pas simplement de poursuivre des études, mais donc elle.
Non, c'est vrai, mais ouais, bien sûr, la grande différence, c'est que si on est l'enfant du Shoah, on a quelque chose à fuir, mais quand on grandit aux États-Unis, même Catherine, c'est la petite enfant des rescapés de la Shoah. Mais quand on grandit aux États-Unis, à New York, avec tous les avantages de classe et d'éducation, c'est très difficile de s'en séparer. Donc je pense que c'est pour ça que Catherine a mis tellement de pages à se rendre compte. Eh oui, non, je veux rester. I'm not ruining the ending, I promise.
Ben, je ne sais pas s'il faut traduire que Lorraine ne va pas vous raconter la fin de son livre. Mais tu me disais assez drôlement que l'un des points communs aussi dans vos deux livres, c'était que, alors que Edith va devoir apprendre à chevaucher, à monter sur un chameau, parce que bon, vous conviendrez que c'est quand même que l'image, enfin on s'imagine que ça demande quand même une certaine connaissance, Catherine, elle, va devoir apprendre à se tenir et à naviguer convenablement sur une gondole.
Et oui, et ne pas tomber dans l'eau. Oui, parce qu'elle est prise d'un homme à bateau. J'hésite à l'appeler un gondolier parce que ce n'est pas... Pour être un gondolier, il faut passer des concours. Il faut vraiment être éduqué à Venise. Il faut avoir
diplôme.
Un truc qu'on met sur le gondole, comme sur les taxis à New York, un petit truc pour indiquer que c'est un vrai gondole. Donc le monsieur dont elle va tomber amoureuse, hein, ce n'est pas un vrai gondolier, c'est juste un homme avec un bateau. Et c'est un peu... c'est le bateau, c'est un gondole, bien sûr. Et c'est un peu le fils un peu rebelle d'une famille qui, pour des générations, a construit toutes sortes de bateaux vénitiens. Donc... pour elle, le gondole, ça figure, c'est assez important. Je disais au début en anglais que c'était un gondola-driven narrative. Donc c'est un récit qui est guidé un peu par le gondole. Et on peut découvrir les secrets, les endroits un peu cachés de Venise à travers le gondole. Donc c'est pour ça qu'il me fallait un gondolier.
Mais il te faut aussi... L'eau est très... Autant le sable est essentiel et la trace... la trace s'inscrit dans le sable, mais disparaît également. Et toi, l'eau était. Il fallait de l'eau à ta ville et à ton histoire. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi?
Pourquoi il me fallait l'eau? Pas parce que, il me fallait l'eau parce qu'il me fallait Venise, absolument. Mais je trouve ça très intéressant que Gérald ait mis en valeur l'idée des traces. J'aimerais bien, en fait, que Gérald me parle ou nous parle un peu de ce titre, l'affinité des traces. C'est un peu abstrait pour moi, le côté affinité. Les traces, je peux comprendre, on peut en parler. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi, l'affinité?
Alors... Déjà, comme certains le savent, donc je suis mathématicien, et les deux termes affinité et trace ont tous les deux un sens mathématique. mais je jure que je n'y ai pas pensé une seconde en choisissant le titre. Pour moi, alors, le désert est d'une certaine façon, le sable du désert est une métaphore de l'écriture. Et les traces sur ce sable sont les traces de l'écrit. Et c'est également les traces du destin, le destin qu'on trace avant de... Un destin se trace, on le dessine sur le sable parce que, à la fois parce que rien n'est écrit, parce que sur le sable tout peut s'effacer, tout peut recommencer. Et ensuite, l'affinité des traces, eh bien, c'est cette idée simple que des traces peuvent se rejoindre. Peuvent se rejoindre dans le sable, des traces qui sont au départ, qui ont l'air de diverger, qui ont l'air de partir dans des directions différentes, peuvent soudain se retrouver, dessiner un chemin commun. Donc c'est tout simplement ça. Il y a un tout petit passage dans le livre que je peux lire concernant l'affinité des traces, parce que je crois que c'est peut-être la meilleure manière de répondre. Donc c'est au moment où Edith est dans un avion et elle passe au-dessus du désert un petit peu avant d'atterrir dans ce désert. C'est quelques lignes. Claquemuré entre les caisses de munitions, les palettes de cornets de bif et les inévitables sacs postaux, elle sent, à travers les vapeurs de kérosène, la qualité de l'air changer. Comme si, à plusieurs centaines de mètres d'altitude, la terre desséchée lui lançait un appel. « Tu marcheras ici ?» Oui, c'est ici, sur ce sol étranger, que tes pas laisseront leurs traces, car les traces, comme les hommes, ont leur disposition secrète. Tu verras, sur le sable même, sur le sable surtout, une trace peut en rejoindre une autre. C'est l'impérissable, l'inaltérable magie propre aux traces, leur mystérieuse alchimie, c'est l'ineffable affinité des traces. C'est un extrait où j'ai essayé de donner, en plus de l'idée, je dirais presque philosophique, des traces comme métaphore à la fois de l'écriture et du destin, en même temps, comme vous avez pu l'entendre, des allitérations qui donnent on entend presque marcher dans le sable.
Ce qui me paraît un peu triste ou un peu, comme tu dis, philosophique sur les traces, c'est que justement dans le sable et l'eau, ça reste un moment, mais ensuite c'est effacé. Donc les traces, ça peut rester dans la mémoire peut-être, mais on ne laisse pas forcément notre trace sur la terre. Mais il y a une image qui me hante à Venise, that haunts me. I don't know if I'm pronouncing that correctly. Me hante. Merci. À Venise, c'est très touristique. Que vous allez peut-être le connaître, c'est le pont des soupirs, the Bridge of Sighs. Donc, si vous avez visité le Palais des Doges à Venise, vous savez que le pont des soupirs, on l'appelle ainsi parce que c'est là où les prisonniers qui étaient qui allaient être exécutés devaient passer par cette soupir et ce pont. Et donc, il se penchait sur la grille un peu pour regarder une dernière fois Venise et pousser des soupirs en disant « Oh, le monde, qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc, le pont des soupirs, pour moi, c'est une espèce de, comme je dis dans le livre en anglais, « a one-way street », donc une rue à sens unique. Et pour moi, c'est un moment assez intéressant pour Catherine parce qu'elle se rend compte qu'on fait des choix, qu'une partie de devenir adulte, c'est d'admettre qu'on fait des choix dans sa vie. Et enfin, c'est comme ça, on ne peut pas revenir. C'est vraiment la vie, c'est une espèce de rue à sens unique. Et le pont comme ça, c'est très picturesque, mais c'est aussi une, ça représente une vérité un peu difficile. Et pour moi, les traces, c'est pareil. On trace notre destin dans le sable. Ça peut se lier aux autres traces, mais quand même, c'est ce qu'on fait. On peut pas faire autrement. Donc c'est ça, c'était à ça que je pensais quand j'ai lu ton très très beau roman.
Mais explique-nous, Lorraine, parce qu'il y a Catherine part à Venise, elle rencontre un Godelier. Enfin, le roman commence effectivement par une. J'ai l'impression que c'est une image d'Épinal, d'une Venise idéale et très, très rose et bleue. Mais le livre et la vie. Et Catherine va faire un certain nombre de découvertes et le lecteur avec elle. Et je dirais qu'il y a une deuxième moitié de ton livre où, alors là, on est vraiment comme à Venise, perdu, enfin, complètement désorienté, et on ne s'attend absolument pas à découvrir, enfin, à ce qu'elle prenne ces chemins-là, et cette route-là, et qu'elle mène cette enquête-là. Est-ce que tu peux quand même nous mettre un peu sur la piste
de ce qu'elle trouve,
de ce qu'elle oui, enfin je ne sais pas si elle le trouve, mais en tout cas de ce qu'elle cherche et pourquoi est-ce qu'elle va
qu'est-ce que j'allais dire, ça j'avais une idée dans tête quand lorsque tu parlais tout à l'heure, mais en fait pour Catherine à Venise c'est une espèce de, enfin elle est là pour faire des recherches, donc bien sûr elle fait des recherches au début, mais avec le temps elle commence à se perdre un peu, quand ça arrive quand tu fais de la recherche, il y a toujours des choses à côté qui sont un petit peu plus intéressantes que ce que tu étais en train de faire. Moi j'ai trouvé ça en faisant des recherches pour ma propre thèse. C'est un peu si je lisais ce bouquin là et donc pour Catherine, Venise c'est effectivement une ville à distraction. Donc d'abord parce qu'elle n'arrive pas à trouver le bon chemin.
Elle est prise dans le labyrinthe. Elle est prise dans le labyrinthe vraiment. De Venise.
C'est et très difficile de s'orienter à Venise, comme vous le savez. Donc pour elle, c'est un peu, enfin, elle est un peu, vu qu'elle est assez désorientée dans cette ville. Les rencontres qu'elle fait, ça lui permet à peut-être donner plus de confiance en elle, à ne pas forcément tenir le bon chemin. C'est-à-dire, si on trouve qu'il y a d'autres choses à part la thèse qui nous paraissent intéressantes, c'est peut-être intéressant d'aller chercher un peu ça, à voir ce que ça donne, et ça peut finir en remplaçant notre idée originale. Donc pour Catherine, c'est son destin à elle, se croise un peu avec le destin d'une femme croatienne qui s'appelle Neva. Et donc, ce que cherche Catherine et ce que cherche Neva, il y a un moment où ça s'entrecroise, où c'est pareil. Donc, Neva est venue à Venise après la mort de sa fille. C'est une mort, comme vous pouvez imaginer, la mort d'une fille, c'est épouvantable. Donc, elle est à Venise. Elle se dit, je vais aller à Venise pour trouver quelque chose dont lui a parlé son grand-père quand elle était petite. Il lui parlait d'une synagogue cachée à Venise qu'avait apparemment construit sa famille dans le, je crois que c'est la fin du 15e siècle. Donc il lui parle de cette synagogue quand elle était jeune. Elle n'y croit pas forcément, mais son mari l'a quittée pour une plus jeune femme, sa fille est horriblement morte. Et donc, elle se dit, je n'ai vraiment rien d'autre à faire que d'aller à Venise à la recherche de cette supposée synagogue. Donc, c'est à travers Neva qu'on voit entrer dans l'histoire ce synagogue. Et c'est Marco, l'homme au bateau, le gondolier, qui va permettre à Neva et à Catherine de se retrouver dans la synagogue. Donc, je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais tout à l'heure.
Les chemins sont libres.
Et oui.
Je ne sais pas, Gérald, si tu voulais lire un autre passage.
Oui, en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette similarité entre nos deux livres. C'est que dans le sable comme dans l'eau, on peut avancer, mais que les traces ou le sillon que peut laisser une gondole va s'effacer très vite, et les traces s'effacent également, ce qui veut dire que voilà, on dessine son chemin, mais qu'en même temps, ce chemin, à la fois, bon, il va s'effacer, donc bon, on peut considérer que c'est une tristesse parce que l'empreinte qu'on laisse est éphémère, mais en même temps, c'est aussi une liberté puisque le chemin n'est pas tracé. Voilà, c'est à nous de le tracer et il peut à tout moment bifurquer. Oui, je voulais lire un autre extrait. Je pense que c'est peut-être une manière de faire connaissance avec un texte. C'est tout au début. Edith est, enfin, au début chronologiquement, pas au début du livre, mais au début de son histoire. Et Edith est triste. Elle est triste, elle ne sait pas vraiment pourquoi. Elle est triste de manière fondamentale, puisque son histoire fait que elle n'a pas les cartes qui lui ont été distribuées ne sont pas les bonnes, et donc elle ne trouve pas sa place sur ce monde. Et alors, on est à la fin des années 50, au début des années 60. Et il y a le roman Bonjour Tristesse de Françoise Sagan qui est paru un peu avant. Et puis il y a le film d'Otto Preminger sur ce même roman. Et une chanson, la chanson de Juliette Gréco, Bonjour Tristesse. Et elle se passe sur cette petite valise, comme on a à 45 tours, comme il y avait à l'époque. Elle se passe ce livre en boucle pour faire écho à sa propre tristesse. Donc je vais lire un passage très court. Posant le vinyle sur le plateau, elle se cale sur les coussins en patchwork crocheté, qui même la nuit ne quitte jamais son lit. La longue introduction au violon opère comme un charme à rebrousse-temps. Regarder en arrière pour s'apercevoir soi-même dans la brume. Depuis qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me donner la première caresse. Bonjour, tristesse. La passerelle de la mare à Ménilmontant paraissait à ses 4 ans comme un pont sur l'océan. Et si le visage s'est estompé de celle qui l'accueillait, bras tendus au bout de l'aventure, il reste l'odeur, comme si la chaleur d'une mer portait nécessairement un parfum. Perla, un nom comme un nuage, suspension diaphane, perle de pluie dissoute dans un océan de larmes évaporées. Ami qui me ressemble, tu es le seul miroir où je peux contempler ma jeunesse. Bonjour, tristesse. Mame Rachel avait déjà 3 enfants sortis des couches quand elle l'a recueillie. La force des choses ne force pas les sentiments. Edith a vite préféré passer seule les fins de nuit dans son lit mouillé. Il y avait un refuge et il est resté au bas de la passerelle, on l'a oublié. Et puis, l'odeur de Rachel est trop âcre. Comment se réfugier dans des souvenirs qu'on n'a jamais eus? Tu es mon seul amour, j'ai trop de faiblesses pour te quitter. Bonjour. Tristesse. Bon, c'est le début, tout n'est pas aussi triste, mais c'est une manière de décrire le point de départ de ce personnage. C'est aussi, le livre est aussi un credo dans la résilience, parce que les destins de ces personnages ont souvent été effectivement tristes. Ce sont les enfants de déportés ont souvent raté leur vie sentimentale et professionnelle. Ils ont eu beaucoup de mal à se marier, à trouver un conjoint. Quand ils l'ont trouvé, soit ils n'ont pas eu d'enfants, soit ça s'est très mal passé avec leur descendance. Mais dans mes romans, j'essaye de défendre des valeurs positives, contrairement à beaucoup de romans aujourd'hui qui sont un petit peu plus dans le dénigrement, dans la dérision. Moi, je prends mes responsabilités, je défends ces valeurs, même si ça fait sourire. Et ici, je décris un personnage qui va dépasser cette malédiction, qui va dépasser cette situation de départ qui est extrêmement inconfortable, pour trouver autre chose et surtout pour choisir. J'aime bien les personnages qui choisissent leur destin, qui donnent un coup de volant, qui reprennent la barre. Même si dans la vie, bon, oui, c'est plus rare, mais je trouve que les personnages de romans sont là pour nous guider, pour être un peu emblématiques. Voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire.
Et dans vos deux romans, il y a des héroïnes, des femmes de caractère et des femmes fortes, mais dans tes livres, Gérald, tu as souvent des personnages principaux qui sont des femmes. Et quelles femmes ? Elles sont vraiment des femmes de trempe et qui font des choix... je veux dire, assez drastiques, et elles sont vraiment des héroïnes quasi de films. D'ailleurs, il y a des scènes qui sont extrêmement visuelles et cinématographiques, des couleurs, je dirais, des ambiances, des climats qui sont très cinématographiques. Mais c'est... oui, elles ont du cran et elles ont du tempérament. C'est parce que précisément tu penses à des personnages principaux qui tiennent la barre et qui
Oui, alors bon, c'est vrai que bon,
les hommes sont là encore, je dirais que il faut dire que certains ils meurent, donc effectivement ils sont du mal à. Mais enfin, disons que là c'est encore un. Parce que Edith, elle a une meilleure amie, d'abord dans la première partie du roman, qui est aussi un personnage très très intéressant. Et bon, finalement, Edith retrouve la femme qui deviendra la mère qu'elle aura vraiment choisie. Elle ne remplacera pas, mais ça sera sa.
Sa mère d'adoption, je dirais. Ouais. Voilà, sa mère choisit. Donc, après avoir eu un certain nombre de mères de substitution, elle a une mère d'adoption. C'est vrai que je trouve. Enfin, il me semble que, bon, dans toutes les sociétés, dans la nôtre ou dans d'autres, souvent, la mémoire, bon, qui est un des thèmes centraux que je poursuis de livre en livre, il me semble que la mémoire est transmise par les femmes. Ce sont les femmes, bon, évidemment, s'occupent en général des enfants et elles transmettent cette mémoire. C'est elles qui tiennent le flambeau, que ce soit une mémoire positive ou une mémoire négative. Dans un autre livre, je mettais en scène des femmes qui transmettent une mémoire de haine, ça peut arriver aussi, mais je trouve que souvent la continuité, la mémoire collective, la mémoire du peuple est transmise par les femmes. Donc c'est vrai que beaucoup de mes personnages sont des personnages féminins qui ne se contentent pas de transmettre cette mémoire, mais également l'assumer, de la conduire. Et c'est vrai que bon, j'ai plus de facilité à m'investir dans un personnage féminin. Souvent les hommes, enfin ici, bon, dans ce livre-là, peut-être, bon, pour la première fois, il y a plusieurs personnages masculins qui sont positifs et emblématiques, mais souvent c'est vrai que j'ai plutôt tendance à avoir des personnages masculins qui sont morcelés, qui sont un peu qui ont un petit peu du mal à s'assumer et que les femmes peuvent éventuellement aider.
Mais est-ce que je voulais vous demander à tous les deux
Souvent, les auteurs expliquent que, bon, vous avez tous les deux parlé de l'idée de départ de vos livres et puis de vos recherches et de pays, paysages, décors qui finalement correspondaient et dans lesquels vous trouviez tous les éléments dont vous aviez besoin pour déployer votre scénario et votre histoire. Mais est-ce qu'il y a des personnages, est-ce que dans vos deux livres, il y a des personnages qui ont pris une ampleur que vous n'aviez pas prévue et y a-t-il des personnages qui vous accompagnent encore aujourd'hui et dont vous avez du mal à vous détacher ? Parce que je sais que c'est aussi un phénomène où le personnage un ou deux personnages accompagnent l'auteur pendant un certain moment et alors qu'ils sont en train d'écrire le livre suivant, le personnage du roman précédent est encore un peu là et il faut attendre qu'il parte pour pouvoir vraiment être totalement repris par d'autres. Mais c'est peut-être pas du tout ce que vous avez vécu. Est-ce que...
Ah, pour moi, c'est Neva, absolument. Au début, elle était juste une cliente de Marco, une femme qui voulait prendre une gondole. Et elle était juste un peu excentrique. Mais au fil de la rédaction, elle a juste... Like, she ran away with the book. Elle a pris l'intrigue et elle s'est barrée avec. mais non, j'ai terminé le livre en 2007, donc je les ai laissés dans le passé, donc ça va.
J'espère.
Ils ne sont plus avec moi, c'est bon, elles ont eu leur petit moment, c'était intéressant, et bon, I've moved on.
dans mon cas, disons que les personnages étaient... bon, il y avait un certain nombre de personnages qui étaient prédéterminés, puisque je tenais à faire un commentaire assez précis sur le livre de Ruth, donc en particulier à rendre compte de tous les éléments fondamentaux qui avaient dans ce livre. D'ailleurs, ça a failli m'arrêter définitivement, puisque dans le livre de Ruth, il y a toute une partie où il y a une sorte de marchandage entre Bose et un personnage qui n'a pas de nom et qui, lui, a le premier, il a le premier droit sur Ruth. Et donc, il est le premier à pouvoir racheter ce personnage, enfin cette femme. Il marchande, il discute et donc et ensuite bon, il tombe d'accord. Donc et c'est Bose qui peut finalement emporter gagner le marché et épouser Ruth. Et c'est vrai qu'il fallait transposer ça et donc transposer ça même dans les années 60, un marchandage, ça n'avait évidemment aucun sens et il fallait trouver l'équivalent. Alors bon, je vous laisse découvrir, mais c'est vrai que j'ai mis un certain temps avant de découvrir comment je pouvais transposer cette scène en gardant l'essentiel et en même temps, bien sûr, en trahissant les détails. Alors ce personnage est donc c'est un personnage qui n'a pas de nom puisque dans la Bible et les commentaires talmudiques les bibliques sont extrêmement reviennent constamment sur le fait qu'il n'a pas de nom et donc et on explique pourquoi ce personnage qui n'a pas osé finalement transmettre son nom, eh bien son nom n'est pas retenu dans l'histoire et donc il est occulté. Donc dans mon cas, disons le personnage annexe qui s'est trouvé avoir une vie plus importante que ce que j'avais prévu, c'est le colonel qui dirige la base, la base où l'armée française pratique les essais nucléaires. J'ai fait de la documentation et j'ai trouvé un seul écrit concernant le colonel véritable, celui qui a vraiment dirigé la base d'Ineker, donc dans le Sahara. Et c'est un document qui avait été rédigé et qui a été rendu public par sa veuve après sa mort. Et c'est un document très militaire, je dirais, c'est un compte-rendu. Et en même temps, j'ai trouvé dans ce document qui fait seulement quelques pages une grande honnêteté, quelque chose de cet homme, parce que les essais nucléaires français, je veux dire, ça a quand même posé un certain nombre de problèmes, ça en pose toujours. L'armée n'a protégé ni ses appelés, ni même les deux ministres qui sont venus observer les essais, Gaston Palevski est mort un certain nombre d'années après d'un cancer. Il a toujours été persuadé qu'il avait contracté ce cancer à ce moment-là. Et puis, bien sûr, ils n'ont pas non plus protégé les populations locales. Mais ce colonel, il a voulu rendre compte des choses telles qu'elles se sont passées.
Pardon, je fais juste une incise. Il faut quand même, parce que je pense que certains d'entre vous ne sont pas au courant. D'ailleurs, je pense qu'on sait peu qu'il y a eu ces essais nucléaires à cette période-là en Algérie. Mais donc, les premières étaient à peine enseveli. Enfin, il y avait
il y a eu deux époques. Il y a eu l'époque de Reagan où les essais nucléaires étaient des essais aériens. Et puis l'époque de Dinecker avec la base, ce qu'on appelait la base vie, donc Dinamgel, donc un petit village, et où les essais étaient souterrains. Et dans ces essais souterrains, il y a celui de l'accident du Béryl. Donc du 1er mai 1962, qui a été complètement raté et qui a donné lieu. Enfin, la montagne a vraiment explosé. En plus, les vents étaient contraires. Les vents revenaient du côté de la base vie et beaucoup de gens ont été irradiés à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, moi, j'ai rencontré des vétérans de ces essais nucléaires qui font partie de ces vaincus de l'histoire que j'évoquais tout à l'heure. Et qui vivent dans une mémoire silencieuse. Une des personnes que j'ai rencontrées, quand je suis venu chez lui, avec mon fils, on a été l'interviewer pendant plusieurs heures, et quand on est arrivé, sa femme nous a accueillis, elle a dit « Écoutez, le salon est là, mon mari est là, moi je m'en vais ». Elle ne pouvait plus supporter d'entendre encore parler de cette histoire. Et cet homme était seul avec ses coupures de journaux, toute sa documentation. Il en avait des classeurs épais comme ça. Et il était seul avec tout ça. Et avec cette mémoire dont il ne pouvait parler que finalement dans l'association. Associations des vétérans des essais nucléaires à Vennes, qui est exactement l'inverse de Neva. La mémoire officielle a été abondamment tronquée, et a donné lieu à beaucoup de versions édulcorées, en particulier de la part de, j'ai oublié son prénom, mais le père de Michel Rocard, donc qui était le père de la bombe atomique française, qui dans ses mémoires a complètement minimisé l'accident. Mais lui, ce militaire, il a voulu témoigner pour l'avenir, et il a témoigné d'une manière extrêmement honnête. Donc j'en ai fait un personnage positif, un personnage honnête, un personnage respectueux et qui était capable de comprendre les impératifs culturels des Touaregs qu'il rencontre. Et donc c'est tout ce que je connaissais hein, de ce personnage, c'était simplement ce rapport de quelques pages qu'il avait, que sa veuve avait rendu public. Et quand le livre est paru, alors bon, bien sûr on a envoyé un exemplaire bon, à un certain nombre de personnes donc, que j'avais interviewées, dont ce monsieur dont j'ai parlé tout à l'heure, et il m'a téléphoné, et il m'a dit deux choses. La première chose, c'est que bon, il était extrêmement ému parce qu'il avait revécu bon, toute cette période. Il m'a dit le colonel, il était exactement comme ça. Et c'était vraiment. Et donc, simplement, c'est un personnage que j'ai reconstruit à partir simplement de quelques pages de texte. Mais finalement, je veux dire, bon, c'était aussi un acte qu'il avait fait. Et la deuxième chose qu'il m'a dite, et que je n'oublierai pas, c'est qu'il m'a dit, voilà, votre livre, je le lèguerai à mes enfants. Donc, c'est vraiment quelque chose. Voilà, cette mémoire silencieuse, eh bien, bon, le livre, la fiction est aussi une manière de la transmettre. Et je trouve que, bien sûr, on peut écrire des essais, on peut écrire des études, on peut écrire des documents bon, pour reparler de l'histoire, on peut transcrire des témoignages. Mais la fiction, c'est aussi une manière de transmettre à travers l'affectif et qui peut, je pense, souvent porter plus loin que le discours de la rigueur.
Je te redemanderai après de nous parler de la parole voilée, mais je vais d'abord demander à Lorraine l'épisode de cette synagogue cachée, synagogue secrète, qui n'est donc dans ton roman pas située dans le ghetto. Est-ce que tu as beaucoup lu sur le ghetto de Venise et sur les synagogues?
Oui, il fallait.
Bah
oui, mais la seule chose que je savais, c'était que la synagogue cachée ne pouvait pas être dans le ghetto, parce que c'est là où on peut facilement trouver. Mais le plus difficile, c'était de l'architecture particulière de Venise, qui, bien sûr, est directement liée au fait que c'est une ville bâtie sur la mer. Je pensais d'abord que si j'allais mettre une synagogue cachée quelque part à Venise, que je le mettrais dans le sous-sol, au sous-sol. Mais il n'y a pas de sous-sol à Venise, juste l'eau. Donc, les Vénitiens, ils s'en servent du rez-de-chaussée, normalement, comme une espèce de, oh là là, en français, warehouse.
Hangar, dépôt, oui, entrepôt,
merci. Ouais. Donc, c'est le rez-de-chaussée, normalement, dans une maison classique ou dans un palais classiquement vénitien, ça sert comme une espèce d'entrepôt où ils mettent fin tout et n'importe quoi. Et puis, ils commencent à vivre au premier étage. Donc, Je me suis dit, bah, ça va être super difficile de trouver un endroit où mettre un synagogue si on connaît. Venise, c'est assez petit, c'est vraiment encerclé comme ville. Si on connaît, la ville de Venise connaît toutes les maisons et tous les hangars, tous les dépôts, comment je vais faire? Donc, j'ai dû inventer un espace de confusion bureaucratique qui faisait que tout le monde, enfin, quasiment ignorait ce qu'il y avait dans un entrepôt, dans une telle maison, à Dorso Duro. Donc, justement, Dorso Duro m'a paru comme l'endroit le plus most likely place,
le plus vraisemblable,
plausible. Le plus plausible pour mettre une synagogue cachée, parce que justement c'est à l'autre côté de Venise. C'est un endroit qui est où on se trouve l'université Ca' Foscari, c'est l'endroit où on trouve de très très belles églises, mais c'est aussi face à une île qui s'appelle Giudecca. Que l'on pense, enfin, le rumeur est que il y avait des juifs au Giudecca, mais en fait, le mot Giudecca, j'oublie en ce moment à quoi ça voulait dire, mais en fait, il n'y avait jamais de juifs au Giudecca, en fait. Donc, Dorso Duro, c'était un peu lié dans l'imagination. On peut imaginer qu'il y avait des juifs un peu désespérés à un certain moment à Dorso Duro. Et puis, je vais dire que c'est en 1516 que le doge de Venise a décidé de mettre tous les juifs là, dans le ghetto à Canareggio. Donc, je me suis dit, donc, OK, si je vais avoir une synagogue cachée, il faut que ça soit bâti avant 1516, voilà. Et voilà, donc, c'est, mais je vous révèle un peu trop de...
Non like,
how a storyteller constructs a story. Si vous voulez que je continue, je peux continuer. Je ne sais pas si je donne trop d'informations.
Enfin, j'imagine que peut-être vous pouvez poser des questions de manière plus rapprochée et plus intime avec Gérald et Lorraine qui seront ravis de vous signer des livres si vous le souhaitez ou en tout cas de répondre à vos questions de manière plus personnelle et individuelle. Merci.
Merci.